Bonsoir Nathalie Barge pour vous présenter ce bulletin d'information du dimanche 10 mai 2020. Il est 19h en temps universel. Trois soldats tchadiens de la mission des Nations Unies au Mali ont été tués, trois autres grièvement blessés dans l'explosion de leur véhicule sur une mine dans le nord du pays. Des renforts ont été envoyés dans la zone, a précisé le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. Au Niger, 20 personnes ont été tuées samedi au cours d'attaques contre trois villages de la commune d'Anzourou, dans la région de Tillabéri. Les assaillants sont venus en moto, ont pillé des boutiques et emporté du bétail avant de partir en direction du nord, a précisé Tidjani Ibrahim Katiela, le gouverneur de la région de Tillabéri. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est toujours prévue pour octobre, a annoncé le porte-parole du gouvernement Sidi Touré, rappelant que ce sera à la commission électorale de donner en temps opportun le calendrier opérationnel. L'épidémie de coronavirus pourrait retarder les opérations de renouvellement des cartes d'identité et d'enrôlement sur les listes. Monsieur Touré a par ailleurs assuré que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se portait bien. Le candidat du pouvoir est en France pour raison médicale. La Turquie a menacé de prendre pour cible les troupes du maréchal Haftar si les attaques contre les intérêts turcs en Libye se poursuivaient. Les attaques contre des missions diplomatiques, aéroports, avions civils et autres infrastructures civiles constituent un crime de guerre, a mis en garde Ankara. Des dizaines de roquettes se sont abattues sur Tripoli hier, tuant 4 civils et endommageant l'aéroport. Le gouvernement d'Union nationale impute l'attaque au maréchal Haftar. Le gouvernement algérien a décidé de reporter les examens du baccalauréat et du brevet au mois de septembre en raison de la pandémie de Covid-19. L'examen d'entrée en sixième marquant la fin du cycle primaire a été annulé. Les autres élèves passeront dans les classes supérieures sur la base des résultats des deux premiers trimestres. Une chaîne de télévision publique dédiée à l'enseignement à distance sera lancée le 19 mai, date anniversaire de la Journée nationale de l'étudiant. La police marocaine a annoncé la saisie de 3,5 tonnes de résine de cannabis à Casablanca. La drogue se trouvait à bord d'un camion de transport de marchandises en provenance du nord du Maroc, a précisé la DGSN. Elle était dissimulée dans une cargaison de produits fourragers. Le chauffeur et une passagère, tous deux ayant des antécédents judiciaires pour trafic de drogue, ont été interpellés. Sur la scène internationale dans le reste du monde, le Premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé la prolongation du confinement au moins jusqu'au 1er juin avant une ouverture progressive des commerces et écoles primaires et ensuite des bars et restaurants en juillet. Il a également annoncé sa volonté d'instaurer une quarantaine pour les personnes qui entrent dans le pays par avion. Le coronavirus a fait plus de 31 000 morts en Grande-Bretagne, deuxième pays le plus endeuillé après les États-Unis, qui ont enregistré plus de 70 000 décès. Le maire de New York, Bill de Blasio, a fait part de son inquiétude concernant une augmentation de cas d'un syndrome touchant les enfants que les scientifiques pensent être liés au coronavirus. 38 cas d'inflammation pédiatrique ont été détectés à New York et 9 autres cas sont à l'étude. Dans l'État de New York, 3 décès sont liés à ce syndrome, a précisé le gouverneur Andrew Cuomo, ajoutant que 85 cas semblables à la maladie de Kawasaki sont à l'étude dans l'État. Téhéran a répété dimanche être prêt à un échange de prisonniers avec les États-Unis sans condition préalable, disant que la balle était dans le camp de Washington. La République islamique avait déjà affirmé en décembre être prête à d'autres échanges de prisonniers avec les États-Unis à la suite d'un échange d'un Américain emprisonné en Iran et d'un Iranien détenu sur le sol américain. Au moins 48 combattants ont été tués ce dimanche près d'Idlib en Syrie dans des affrontements entre les forces du régime et des djihadistes. Le bilan le plus lourd depuis le début de la trêve, indique l'OSDH. 35 soldats et combattants du régime et 13 djihadistes sont morts dans les combats qui ont eu lieu dans la province de Hama, selon l'ONG syrienne. Et la police anti-émeute a pourchassé dans plusieurs centres commerciaux à Hong Kong des manifestants pro-démocratie. Ce dimanche, des groupes de militants masqués se sont répandus dans au moins 8 surfaces commerciales pour réclamer l'indépendance du territoire semi-autonome et la démission de la chef de l'exécutif.
Et tout de suite, un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Dialogue des religions de ce mercredi. Que pensez-vous du mariage entre chrétiens et musulmans ? Bonsoir, au micro Idrissa Sédoudia, en compagnie de ma collègue Kadiatou Traoré. Kadiatou, bonsoir.
Bonsoir Idrissa.
Nos invités aujourd'hui, le père Pierre Loua, prêtre jésuite guinéen qui se trouve à Atlanta en Géorgie. Mon père, merci d'avoir accepté d'être parmi nous ce soir.
Merci.
Et Émile James Senghor, mon ami et confrère Émile James, ancien journaliste du quotidien Le Soleil, ex-correspondant de Jeune Afrique, ancien attaché de presse à l'ambassade du Sénégal à Washington et ancien haut fonctionnaire de l'OMS. Je vous ai souvent parlé de lui, de sa femme musulmane Aïda, de son oncle, l'ex-président Léopold Sédar Senghor, un catholique qui a dirigé sans incident religieux et pendant deux décennies un pays essentiellement musulman, le Sénégal. J'ai invité Émile pour qu'il nous parle personnellement de l'expérience du couple Émile-Aïda et de leurs enfants dans un contexte musulman. Nous espérons l'avoir en ligne bientôt. Kadiatou ?
Nos auditeurs sont invités à participer directement à cette émission avec leurs commentaires et questions à nos invités au numéro 001-202-619-3140 ou ils peuvent nous envoyer des SMS au 225-58-98-85-40 ou au 221-765-727-293.
Alors, nous allons tout de suite commencer avec le père Pierre Loua. Mon père, que dit votre religion sur les mariages interreligieux entre chrétiens et musulmans ?
Moi, je dirais que la question du mariage est une question très complexe. Je crois que c'est mieux pour moi de simplifier. L'Église catholique n'est pas du tout opposée au mariage interreligieux. Et je crois que le plus important, c'est, comme je peux vous dire, le mariage dans l'Église catholique, ce qui est important, c'est le consentement des époux. Et étant donné que ces deux personnes ou bien ces personnes se rencontrent et échangent un consentement naturel et ils s'aiment, et à partir de là, eux-mêmes parfois, ils peuvent définir leur vie ensemble, si chacun veut garder sa religion, et il n'y a pas de problème, chacun peut suivre sa religion et suivre sa foi. Et moi, je crois que le cadre général du mariage interreligieux, d'abord, c'est ce cadre-là. Comment les personnes qui viennent ensemble et qui s'aiment et qui appartiennent à différentes religions acceptent de vivre ensemble, de s'aimer et de conserver leur religion et leur foi.
Merci beaucoup, mon père. Alors, on me signale de l'autre côté de la vitre que nous avons maintenant en ligne, je suis tellement impatient de parler à Émile, que nous avons en ligne maintenant Émile James Senghor. Émile, bonsoir.
Bonsoir, merci encore, je suis désolé d'avoir été un peu absent là il y a un instant.
Ah, vous avez raté une très belle introduction que j'ai faite à votre sujet.
Bien sûr, hein. Il a très bien parlé de vous, monsieur Émile.
Alors, vous
merci
avez...
Beaucoup, merci beaucoup, ça ne me donne pas de lui.
J'ai à côté de moi Kadiatou Traoré, alors j'ai dit que j'ai beaucoup parlé de vous et de Aïda. Comment est-ce que ça s'est passé ? Vous êtes catholique, elle est musulmane et vous avez des enfants. Comment est-ce que tout ça s'est bien passé ? Commençons par vous deux.
Ben écoutez, c'est très embarrassant cette question parce que vous êtes en train d'entrer dans ma vie privée de manière fracassante là. N'est-ce pas ? Parce que c'est une. Mais puisque c'est Idrissa qui me demande d'intervenir, alors je vais faire de mon mieux. Alors, pour commencer, je dirais que c'est une belle histoire d'amour.
N'est-ce pas ?
Parce que bon, j'ai rencontré ma femme par hasard chez des amis communs et puis bon, mais ça s'est passé très vite. Hein. Alors bon, évidemment, elle musulmane, moi catholique, catholique conservateur en plus. Hein. ma famille est encore plus compliquée que moi. Ça s'est passé d'une manière assez. On a eu des hauts et des bas. Ça a duré 7 ans hein, pour faire court, parce que sinon je vais bouffer toute la demi-heure de l'émission. Pendant 7 ans, on a eu toutes les difficultés du monde pour pouvoir nous marier, pour pouvoir nous aimer tranquillement. Mais finalement, on n'y est pas venu. Voilà.
Merci Émile.
Comme quoi, l'amour, quand on s'aime, tout est possible, quoi.
Tout voilà. Est possible, mais là.
Vous avez tout à fait raison, c'est l'élément essentiel.
Mais il a parlé de 7 ans, hein.
Oui, mais la finalité, c'est la finalité qui compte.
N'est-ce pas? Bon, on a un auditeur. C'est M. Keïta?
Oui, Bakary Keïta de Bamako.
Ok, Bakary Keïta, allez-y. Vous avez en ligne le père Pierre Loi et Émile James Senghor.
Ok, je salue quand même d'abord vos invités. Aujourd'hui, quand même, c'est une question quand même intéressante, un sujet vraiment intéressant. Moi, je crois que la religion musulmane n'interdit pas à ce qu'un musulman marie quand même une chrétienne. Mais elle n'est pas d'accord avec une femme musulmane soit mariée à un chrétien. Pourquoi? Parce que la religion musulmane dit que c'est à l'homme quand même de donner les manières de vivre vraiment à la femme. Donc l'homme est capable quand même de canaliser vraiment la femme. Donc en mariant quand même une chrétienne, l'homme musulman va essayer quand même d'amener quand même la chrétienne à épouser vraiment la religion musulmane. Donc ça quand même c'est une question aussi intéressante. Et aussi j'aimerais savoir, par exemple, il y avait au Sénégal, par exemple, on a eu un président chrétien dans un état où la plupart quand même sont musulmans. Est-il possible qu'un musulman soit président quand même des États-Unis à domination chrétienne?
Oui, rien n'exclut, en fait, puisque vous me posez la question, je vous dis que rien n'exclut qu'un Américain, un musulman devienne président. Bien entendu, pendant cette campagne, on a entendu un des candidats dire que c'est inconcevable, il l'accepterait pas. Mais c'est pas ce que dit la Constitution des États-Unis. N'importe quel citoyen américain a le droit, n'est-ce pas? S'il est né dans ce pays, s'il est citoyen américain, et s'il n'est pas naturalisé, il a le droit de devenir président des États-Unis, peu importe sa religion. Et même, on a vu au Congrès un député venir, il a été élu du Minnesota, il est venu, il a prêté serment sur le Coran et pas sur la Bible comme les autres chrétiens. Donc la Constitution américaine ne fait pas de distinction à ce niveau. Kadiatou.
Moi, je voulais rajouter à ce que Bakary vient de dire que l'interprétation du Coran quand même vraiment prête à confusion dans nos pays. Parce que moi, dans mes études, ce que j'ai vu qu'il y a dans le Coran un seul verset qui parle de ce sujet de façon évidente. Ce verset est sans conteste et principalement, il définit concernant le mariage une certaine catégorie de non-musulmans. Donc, les musulmans et les musulmanes étaient donc invités à s'unir entre eux, selon le verset, comme ils étaient dans cette croyance en Dieu transcendant, symbole d'un monothéisme épuré de toutes les divinités matérielles et de toutes les injustices. Mais le verset en question stipule donc qu'il est permis aux musulmans et aux musulmanes de contacter mariage avec des croyants moumouns et de s'abstenir d'épouser des polythéistes qu'on appelait mushkrikin. Notons tout d'abord l'approche totalement égalitaire du verset. Ça n'a pas fait de différence au début. Et pourquoi ça vient faire la différence dans l'interprétation? C'est ça maintenant la question.
Très bien. Voilà. Alors, nous retrouvons le père Pierre Loi pour lui demander comment ça se passe en Guinée.
En Guinée, moi je dirais que en tant que catholique, l'Église catholique est très flexible, comme disait M. Tieng. L'Église laisse d'abord les époux libres de s'aimer, et puis maintenant chacun en étant ensemble, ils décident
chacun de conserver sa religion et cela ne peut pas compromettre le mariage, l'union entre les époux. Et je crois que généralement la question la plus importante c'est le choix de la religion des enfants. Avant que ces enfants deviennent majeurs et comme disait celui qui est intervenu à Bamako, dans l'Église catholique, on n'impose pas sur la femme de changer la religion. Moi, deux de mes sœurs sont mariées à des musulmans. Elles sont baptisées, confirmées et elles ont une large famille et il n'y a jamais eu de conflit. Les enfants ont toujours été libres de choisir leur propre religion et cela n'a jamais compromis la foi et la prière dans ces familles. Je crois que concernant ce style de vie dans l'Église catholique est plus ou moins flexible par rapport à la religion musulmane, d'après ce que j'ai entendu de celui qui est intervenu de Bamako.
Merci. Merci mon père. Alors, avant de passer la parole à Alphonse Mouaki et à Babacar Thiam, je voudrais demander à Émile comment cela se passe pour lui et Aïda et les enfants. Comment est-ce qu'il gère la question religieuse? Quelle religion choisir?
Ah, bon, ben, bonne question. Mais en même temps, je voudrais d'abord dire ce qui rejoint un peu M. Keïta, je crois, Bakary, n'est-ce pas, c'est ça?
Oui.
Qui parlait, c'est pas, des difficultés sur le plan religieux, enfin, pour le mal qu'on a eu à nous marier, parce que venait du fait surtout que j'étais catholique. C'était surtout vraiment la grosse difficulté. Mon beau-père, qui est devenu finalement mon meilleur ami, ne voulait rien entendre, parce que selon ses croyances, selon ce qu'il avait lu, n'est-ce pas, c'était pas possible. Eh bien, il a fallu que des amis musulmans, à moi, même, de bons amis à moi, qui étaient même des aînés, soit aller voir un certain Serigne Abba Sall, que beaucoup de gens connaissent au Sénégal, mm-hmm. qui est décédé aujourd'hui. C'est ce Serigne Abba Sall qui nous a mariés.
Incroyable, Émile,
c'est une histoire c'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, pour revenir à ta question, nous sommes les parents de 6 garçons, n'est-ce pas, les aînés, parce que c'est des jumeaux, ils viennent d'avoir 50 ans.
Wow.
Et le 4, n'est-ce pas, qui s'appelle James comme moi-même, n'est-ce pas, eh bien, il a 32 ans. Alors, il y en a, comme par hasard, il y en a 3 qui sont catholiques et 3 qui sont musulmans. Mais alors, on n'y est pour rien. Hein,
ah bon?
Voilà, bon, parce que moi, je suis un grand démocrate et ma femme aussi. Bon, on leur a dit, bon. Au début, d'ailleurs, j'ai un peu triché. J'ai même fait baptiser les deux derniers qui sont nés d'ailleurs à Washington quand j'étais fonctionnaire international à Ouagadougou. Baptisé, première communion, etc. Alors, donc, il y en a un qui s'appelle Alion James, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont tous James comme deuxième prénom.
Mm-hmm.
Et à l'âge de 20 ans, il a choisi de devenir musulman.
Donc, vraiment, vous leur avez laissé le choix.
C'est une belle histoire.
Voilà. Donc, bon, ça se passe très bien.
Formidable, vraiment, on a une belle histoire, alors, un bon exemple.
Maintenant, pour ceux qui sont mariés, il y en a maintenant 4 qui sont mariés. Il y en a 2 qui sont mariés à des musulmans. Enfin, c'est les musulmans qui sont mariés à des musulmans. Et les chrétiens sont mariés à des chrétiennes.
Incroyable.
Comme par hasard.
Comme par hasard. Une
fois, on n'y est pour rien. Hein.
Ok, bah, écoute, je te crois.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Je disais à M. Senghor que ça, c'est une belle histoire, une belle expérience de couple mixte chrétien et musulman. Je pense que, bon, enfin, il y a une tradition aussi religieuse qui a beaucoup influé sur ces choses, mais quand on étudie à fond, il y a des faisabilités dans ces
oui,
genres.
Et ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est d'ailleurs pourquoi j'en parle très souvent, Émile, bien que catholique, a tout fait pour que sa femme aille à la Mecque, n'est-ce pas Émile?
Bon, puisque tu en parles, je vais en parler, mais ça m'amarrate un peu. Pour une fois que j'avais un peu d'argent, j'ai mis un peu la main à la poche et elle a fait son pèlerinage en 1997.
Voilà, vous avez une adja, voilà. Comme on dit au Sénégal, hein?
Elle est adja, oui. Elle est adja. Elle a toujours été une bonne musulmane, hein, pour ceci dit en parenthèse. Hein.
Je l'ai
même encouragé, n'est-ce pas, dans ces lois-là.
Merci.
C'est toujours très bien passé de ce côté-là.
Bon,
moi, je ne suis pas un très bon catholique.
catholique conservateur, hein. mais très, très ouvert, n'est-ce pas, au souffle vivifiant
non,
de...
Je suis pratiquant, mais bon, j'avais plus famille, quoi, voilà.
Merci. Alors, maintenant, Alphonse Mouaki, avant d'aller à Babacar Thiam. Alphonse, vous avez l'antenne.
Merci, Mélissa. Vous savez que dans le christianisme, il y a ceux qui sont réellement convertis, qui sont des vrais chrétiens, et d'autres qui ne le sont pas. Donc, moi, je donne ici, je vais vous donner ici une interprétation de la Bible, et non des dénominations. Dans la Bible, le passage de Corinthiens 2, chapitre 2, verset 14 à 16, il est formellement interdit, Dieu interdit strictement les mariages mixtes entre chrétiens et musulmans, ou bien entre chrétiens et d'autres religions. Donc, le chrétien qui est véritablement converti doit se marier avec une chrétienne qui est également convertie. C'est
Alphonse, alors laissez le père Pierre Lois, qui est expert dans ce domaine, répondre à votre commentaire, en quelque sorte réagir. Oui, allez-y.
C'est pas question d'expertise, c'est question de bien interpréter le passage de Jésus. Si vous interprétez le passage de Corinthiens, chapitre 6, verset 14.
Ok, mon père, allez-y.
Oh, je vous remercie. Moi, je n'ai pas ici la Bible sous mes yeux pour voir ce passage dont parle M. Alphonse. Mais si nous impliquons aussi, ce n'est pas seulement la Bible qui régit les chrétiens dans l'Église catholique. Nous avons aussi le droit canon. Et le droit canon reconnaît le mariage mixte. Et moi, je suis étonné que nous puissions uniquement parler d'un mariage entre chrétiens et chrétiens, et chrétiens et chrétiennes, ou bien entre chrétiennes et chrétiens. Ça serait vraiment fermer la porte à plusieurs possibilités, puisque depuis le début, les hommes et les femmes se sont toujours aimés et venant de différentes origines. Donc, et cela a permis d'élaborer des règles. Si on se met on se base uniquement sur le message de Saint Paul dans le passage de Corinthiens, je me dis que ça serait un blocage pour nous. Et moi, d'ailleurs, même c'est pratiquement impossible dans l'Église catholique de ne pas parler du mariage mixte, parce que le monde est divers et les hommes et les femmes qui se rencontrent viennent de plusieurs origines. Donc, nous ne pouvons pas vraiment interpréter ce passage-là comme ça et aujourd'hui. Et moi, je me dis que, ayant étudié la théologie et ayant étudié le droit canon, je reconnais personnellement que le mariage mixte est autorisé dans l'Église catholique.
Merci, mon père. Alors, Babacar Thiam, j'avais dit Thiam, mais c'est Thiam. Babacar ?
Oui, monsieur.
Allez-y.
Bon, moi, j'avais dit tout à l'heure, concernant un commentaire, j'accepte qu'il y ait mariage entre chrétiens et musulmans. Parce que moi, je me vois parler sur l'amour qui existe entre les deux parties. Je sais que dans la religion musulmane, on dit qu'un homme musulman peut se marier avec une femme chrétienne. Mais ce que la religion musulmane ne ferait pas, c'est qu'une femme musulmane ne doit pas se marier avec un homme chrétien. Mais moi, je mise sur l'amour qui existe entre les deux parties. Si on se focalise sur les droits et les libertés, chacun est libre d'embrasser la religion, de son choix à n'importe.
Merci, mais.
Pour moi, ce n'est pas un problème, quoi.
Ok, vous avez dit qu'une musulmane ne peut pas épouser un chrétien. Bon, Émile nous a dit tout à l'heure que pourtant Abba Sall, qui était une autorité religieuse au Sénégal, une des plus hautes autorités religieuses, a été celui qui a été intercédé en sa faveur pour dire que bon, mais l'islam ne l'interdit pas. Émile.
Bon, ça, là, ce sont des interprétations différentes.
Ok.
Je pense qu'il y a une lecture de cette situation à faire et pourquoi le verset même du Coran qui est venu, Idrissa, c'était dans le contexte de Kelthoum bint Aqaba qui avait quitté les Quraysh. Elle s'était convertie à la religion musulmane et elle a regagné la communauté musulmane avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, maintenant, et après le pacte entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh, ils sont retournés pour demander au prophète la récupération de leur sœur. Et la sœur Oum Kelthoum a dit au prophète, ne me laisse pas partir avec eux, parce que quand ils vont me ramener, c'est pour aller me maltraiter, c'est pour aller me marginaliser encore. Et donc je pense que il y a le verset qui est venu comme ça. On a parlé en son temps des hommes qui ne sont pas religieux. Mais est-ce que c'est ce contexte-là? Parce que quand on est chrétien quand même, on est religieux monothéiste, on reconnaît quand même un seul Dieu. Voilà. En fait, il y a des points d'ombre et qui nécessitent vraiment...
Et ce qui est valable pour les musulmans et les chrétiens, c'est valable aussi, je suis sûr, pour les juifs.
Et même pour dire qu'un musulman peut le faire et la musulmane ne peut pas le faire, il n'y a pas eu de différence.
Bon, moi, dans le temps, j'entendais très souvent les gens dire que si un musulman épouse une chrétienne, il faudra que la chrétienne devienne musulmane. Je ne sais pas si c'est toujours vrai, en tout cas au Sénégal. Mais je voudrais demander à Émile, comment est-ce que, bon, dans ce contexte, il a pu évoluer avec Aïda et leurs enfants au Sénégal? Émile?
Bon, oui, je suis là. Écoutez, j'avoue qu'on n'a pas eu de grosses difficultés. Bon, il est arrivé des deux côtés, hein, mais particulièrement du côté de ma belle famille. Il est arrivé que des oncles de ma femme ou des tantes d'un certain âge me disent discrètement, alors c'est pour quand? Je dis quoi, c'est pour quand? Tu vas devenir comme musulman? Je dis jamais. C'est pas possible, c'est tout, ça, c'est pas possible, ça. Je dis, je suis ferme avec ça, et puis il n'a jamais été question. Je n'ai jamais souhaité moi non plus que ma femme change de religion.
N'est-ce pas?
Ça, c'est un respect que vous avez vraiment conservé entre vous, pour maintenir l'équilibre entre vous. Parce que en lui imposant.
Et je pense que c'est ça notre force, en fait.
Voilà, c'est ça, c'est une force. C'est une force.
Oui, ça n'est
vraiment. Je le reconnais.
Un autre auditeur, Babacar Thiaw, vous êtes encore là?
Oui, je suis là.
Ah, il est là. Babacar est là. Allez, oui. Alors, vous avez suivi Émile, vous avez suivi le père Pierre Lois. Est-ce que vous êtes toujours convaincu que la musulmane ne devrait pas épouser un chrétien?
Bon, moi, je ne condamne pas le fait qu'une musulmane épouse un chrétien. Mais j'ai dit simplement ce que j'ai entendu les imams et autres. Mais moi, personnellement, je me dis qu'il n'y a aucun problème que deux personnes qui s'aiment doivent se marier, que ce soit chrétien ou musulman. Ce qui est important pour moi, c'est qu'il y ait de l'amour entre les deux parties.
Merci.
Que ce soit chrétien, mais que ce soit musulman.
Je crois que c'est clair.
Parce que la foi est trop sensible. On doit laisser les gens vivre leur religion, n'est-ce pas?
C'est clair maintenant. Merci. Alors, Inoussa Moussa, vous avez l'antenne, Inoussa, allez-y.
Ok, ça c'est un sujet que ça revient très souvent, les gens en parlent. Mais je veux être très clair, pas de nuance. Le Coran, c'est vraiment dans le Coran. Un musulman peut se marier à une chrétienne. Elle peut se convertir ou pas. Si elle veut, elle se convertit, elle peut rester chrétienne. Mais si elle se convertit, elle aura plus d'avantages. Ça, c'est clair et net. Mais une musulmane ne doit pas marier à un chrétien. Ça, c'est formellement interdit.
Émile, qu'est-ce que vous répondez à ça? Émile?
Écoutez, je réponds que je suis embarrassé parce qu'encore une fois, moi j'ai réussi à avoir une épouse musulmane et ça se passe très bien grâce à l'intervention d'une haute autorité religieuse, Serigne Abassal, je rappelle son nom exprès pour cela. Eh bien, je pense qu'il savait ce qu'il faisait. Hein?
Ah, n'est-ce pas?
Et mais voilà. Moi j'ai une question à poser à Inoussa. Pourquoi la musulmane ne peut pas se marier avec un homme chrétien?
Ok. Ce que je vais vous dire, ça ne provient pas de moi, ni quelqu'un. Ça vient du prophète. Le prophète l'a bien dit. Qu'il faut qu'un musulman se marie à une chrétienne et il aura plus. On veut qu'on soit beaucoup, disons, la quantité plus.
Merci. Merci. Malheureusement, Inoussa, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors, pour résumer, Émile et le père Lois, qu'est-ce qu'il faudrait conclure de ce dialogue ?
Moi, personnellement, je crois que M. Émile a touché le point de façon indirecte, puisque quand nous parlons du mariage, nous devons vraiment penser à l'amour qui existe entre les époux qui se rencontrent. Et placer la religion avant l'amour qui existe entre les époux.
Merci, merci. Mon père, malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je remercie le père Pierre Lois et je remercie mon ami de toujours, Émile James Senghor, pour sa contribution à cette émission. Je remercie aussi Kadiatou Traoré et Joselle Maurice de l'autre côté de la vitre. Merci beaucoup.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.